Depuis un mois, le télétravail est imposé aux salariés à raison de 3 jours par semaine sous peine d'une amende de 500 euros par tête. Il avait été demandé de l'étendre si possible à 4 jours, mais à partir de demain, 2 février, le recours au télétravail reste recommandé. Les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité les modalités de recours au télétravail. Alors quel impact cette organisation a-t-elle sur les petites et moyennes entreprises? Nous en parlons ce matin avec Samuel Sette, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME d'Occitanie et de Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour.
Samuel Sette, on va commencer, si vous voulez bien, par ce qui va bien. Quels sont les bénéfices de la mise en place du télétravail dans les PME de notre région?
Si l'on parle d'un point de vue du bénéfice, on parle inévitablement d'un point de vue de nouvelles méthodologies organisationnelles. Ça a été un élément, mais j'aimerais vous dire qu'il a été mis en place finalement dès le mois de mars 2020, lorsque nous sommes retrouvés dans une situation finalement de blackout, si j'ose dire. Il a fallu trouver en quelques heures, quelques jours parfois, des nouvelles solutions. Et le télétravail a été une de ces solutions, notamment dans le traitement sanitaire des difficultés que nous rencontrions. Il est à noter que dans ce cas-là, nous ne sommes pas trop posés des questions sur les pertes de productivité, sur les difficultés de mise en œuvre. On s'est simplement mis arrêté sous cloche suite aux instructions gouvernementales. Évidemment, avec les mois, je vous en prie.
Non, terminé, je vous en prie.
Je disais, avec les mois évoluants et les différentes vagues que nous avons pu connaître, nous avons dû donc passer d'une simple éloignement physique du bureau à une démarche organisationnelle de gestion de projet. Ça, c'est quelque chose qui a eu un effet, dans un premier temps, bénéfique, puisqu'il a permis de repenser la méthodologie de management.
Est-ce qu'il y a des outils particuliers que les PME ont dû mettre en place pour répondre à cette demande de télétravail?
Ah oui, assurément. On va dire que on est très loin de l'image d'Épinal du télétravail avec le traitement d'un fichier Excel sur son canapé avec son labrador à ses pieds. On peut, tout le monde peut le comprendre tout à fait. Oui. On est dans une démarche beaucoup plus qualitative, c'est-à-dire qu'on passe d'un stade de présentiel, 35 heures traditionnelles, avec une gestion assez limitée managériale, à une gestion beaucoup plus qualitative, qui est la mise en projet, la mise en rapport de collaborateurs sans traitement traditionnel du management. Donc, ça implique la mise en œuvre d'outils collaboratifs. Ça implique aussi la mise en œuvre d'outils de sécurisation des données, sans se prendre pour transmettre des données ultra confidentielles. Il y a tout de même une question de traitement de la donnée. Et enfin, il y a une notion de management. On passe d'un stade de « tu es là sous mes yeux » à « mettez-vous un rapport en projet et rendez des avancées notables là-dessus ». Donc c'est aussi une révolution copernicienne pour l'ensemble de nos dirigeants des entreprises.
Donc difficulté, adaptation au niveau du management, aussi pour la protection des données. Et vous parliez d'un travail, d'une relation qui était passée du quantitatif au qualitatif. Est-ce que ça a créé des tensions entre les salariés, cette mise en place de télétravail dans les PME?
Alors, comme toute chose et comme tout excès, évidemment, c'est-à-dire que en mars, on est parti sur le total télétravail. Quand en juin, il s'agit de rencontrer et de revoir en physique nos collaborateurs, les premières choses qui sont remontées, les premiers retours qu'on a de toutes les entreprises ont été, on a été un petit peu dans l'excès, et des collaborateurs nous ont parfois enjoint à revenir absolument sur site, arguant du fait que peut-être être en télétravail était devenu finalement plus dangereux pour leur santé du fait d'un isolement, du fait d'absence d'interaction sociale avec la pandémie. Donc on a remis de la mesure, comme finalement dans chaque situation d'urgence, des choses ont été prises en urgence et puis ensuite on s'est aperçu qu'il fallait un petit peu pondérer un petit peu les choses. C'est facilement compréhensible.
Selon l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, près de 30% des postes seulement sont télétravaillables en France dans les entreprises. Est-ce que l'allègement prévu le 2 février va apporter un soulagement aux PME d'Occitanie?
Oui. Il est à noter qu'il revient à l'entreprise et à ses dirigeants de déterminer les postes qui sont télétravaillables. Ça, c'est quelque chose qui est finalement assez logique et qui n'a jamais été contesté, notamment par notre gouvernement. Il est important de prendre en considération que, partant de là, si, pour des raisons sanitaires, nous mettons des postes qui sont difficilement travaillables ou dont l'organisation n'a pas été prévue à cet effet, on est donc dans une perte de productivité pure et simple. Et dans ce cas-là, on agit exclusivement dans un intérêt sanitaire au risque d'attenter au développement et à la pérennité de nos entreprises. Donc tout ce qui est contraignant sur ce sujet est susceptible d'attenter à la pérennité de nos entreprises. Je me permets de rappeler un point important. En Occitanie, oui. 95% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc lorsqu'on parle d'entreprises en Occitanie, on parle de ces petites entreprises. Et vous comprendrez aisément que quand une, deux ou trois personnes sont mises en télétravail alors que le poste n'était pas véritablement prévu à cet effet, vous avez donc 10, 20 ou 30% de votre effectif qui n'est plus à disposition pour la production. Et c'est un problème.
Et donc ça apporte un changement de paradigme en fait dans ces entreprises ?
Assurément. Et dans ce cas-là, il faut louer la capacité de nos petites entreprises à une forme de résilience, à une forme d'adaptation pour une forme de survie, disons-le clairement et sans détour. Et je pense que ça va servir, parce que la question que tout le monde se pose, et tous les entreprises aujourd'hui se posent, c'est l'ensemble des changements que soit nous avons subis, soit nous avons mis en œuvre dans une démarche active, c'est selon, va devenir quelque chose à l'avenir de structurel ou bien de conjoncturel, et ça, nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de répondre. Est-ce que cette démarche de télétravail désormais est un acquis ? Est-ce que ça sera une demande de la part de nos collaborateurs, toute proportion gardée, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Ou est-ce que ça sera une passade avec une volonté de se retrouver ? Vous avez vu, j'ai même moi, dans ma présentation, fait une opposition entre les deux, qui a peut-être pas lieu d'être, mais qui quand même reste dans les esprits.
Oui, oui, oui. Et alors, comment va-t-on le savoir, justement? Comment se dessine l'avenir? Puisque, voilà, le dispositif s'allège à partir de demain. Qu'est-ce que vous mesurez dans les PME d'Occitanie et d'Haute-Garonne?
Alors, il y a une volonté, on arrive, pardonnez l'expression, mais un peu au bout du rouleau. Les gens sont très fatigués, nos collaborateurs sont psychologiquement épuisés. Les entrepreneurs vous savez, de l'entreprise, ce qu'elle supporte le moins, c'est le moins bien, c'est le stop and go, hein, c'est-à-dire on s'arrête totalement, on repart, on s'arrête totalement. C'est quelque chose qui est bien sûr pour l'activité, mais aussi pour la démarche psychologique destructeur. Et là, il y a une volonté d'avoir des perspectives. Je crois que le gouvernement est dans son rôle lorsqu'il essaie de donner des perspectives. Et je pense qu'il l'a fait à de nombreuses reprises en disant on fait ci, mais on va pouvoir faire ça, etc. Et je pense qu'il est important pour tout le monde d'ailleurs d'avoir des perspectives prêts à endurer pour rompre un peu ce danger sanitaire, à condition que les actions soient bien évidemment proportionnées aux risques que nous subissons. Ça, c'est une question qui commence à revenir aussi. Est-ce que on n'est pas un petit peu dans l'excès? Est-ce que ces façons d'appréhender les problématiques sont bonnes? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Et finalement, si il faut quand même tirer des enseignements et des éléments positifs de pareilles situations, c'est que plus que jamais, il y a des discussions dans toutes les entreprises, y compris les petites. Et ça, c'est quand même une vraie victoire, une vraie démarche de résilience et de rapport humain. C'est quand même la base. C'est tout de même de fédérer du monde autour d'un projet dans une entreprise. Il n'y a rien de plus beau, finalement.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez pu faire un lien entre le télétravail dans les PME et l'évolution de leur chiffre d'affaires ? Est-ce qu'il y a des chiffres?
Alors,
qui...
vous avez des entreprises de commerce ou de prestations de services où le télétravail ne s'envisage même pas. Hein. On ne le considère même pas, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de d'humour là-dessus dans les entreprises sur tel ou tel poste qui serait, que se passerait-il si ce dernier était travaillable. Je pense que il y a, comme on l'a dit, des changements de paradigme qui impliquent des changements de méthodologie de production. Et ici ou là, ont été mises en œuvre des démarches qui sont simplifiées, avec du management raccourci, avec des prises de décision beaucoup plus rapides, et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est une responsabilisation pour ceux qui le décident et ceux qui l'envisagent d'un grand nombre de collaborateurs dont on n'envisageait pas par le passé qu'ils puissent prendre en charge les choses. Comme dans toute crise, dans toute période de tension, vous avez des hommes et des femmes qui se révèlent et qui arrive justement à appréhender les choses de manière différente. Et dans une entreprise, ça, c'est toujours un rêve, c'est une démarche positif, fantasmée de pouvoir découvrir ce qu'on appelle finalement une pépite, quelque chose qu'on avait à côté duquel on était passé.
Est-ce que le prêt garanti par l'État a permis et permet encore aujourd'hui aux PME d'éviter la faillite? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez?
Alors, est-ce que cela a permis d'éviter la faillite? Incontestablement. Euh,
Oui,
on a
jusqu'à
tendance
maintenant.
à, quand on parle de PGE, à réduire ce prêt garanti par l'État, mais il faut savoir que il y a eu tout un tas d'acteurs qui ont agi au support et en soutien de l'entreprise. Je veux parler notamment de l'URSSAF, qui a fait un travail extraordinaire en permettant parfois des reports de paiement de 1, 2, 3 ans parfois, ce qui est exceptionnel, qui n'a jamais été vu. Mais je me dois de vous dire que l'inquiétude se porte sur nos entreprises qui étaient en difficulté avant la crise et qui ne nous l'auront pas, seront en difficulté après la crise. Parce que
Est-ce
lorsque
qu'il
vous êtes
faudra
dans une
rembourser
situation,
justement ce prêt?
oui, parce que il va falloir rembourser ce prêt. Vous savez, vous avez vu, et la CPME a porté de nombreux projets pour rallonger la maturité, c'est-à-dire la durée possible de remboursement,
Oui.
parce qu'il n'est décemment pas et techniquement pas envisageable avec la moyenne de la valeur ajoutée de nos entreprises en Occitanie, de penser qu'on peut rembourser en 5 ans 25% de son chiffre d'affaires. Ce n'est techniquement
Oui.
pas possible. Ça laisserait d'ailleurs apparaître que dans ce cas-là, on a des fameuses caisses secrètes avec de l'argent magique, ce qui n'est évidemment pas le cas, je le regrette d'ailleurs.
Il y a un an, le baromètre Viavoice pour les Échos indiquait que 23% des dirigeants des PME se disaient prêts à pérenniser le télétravail. Est-ce que cette intention a évolué, Samuel Sept, depuis voilà, cette année?
Oui, alors les choses évoluent, et notamment aussi sous l'impulsion de nos collaborateurs, qui sont un facteur d'innovation par leur appréhension des méthodologies et du paradigme du rapport au travail, qui est quand même quelque chose qui était déjà enclenché. Et donc, ici ou là, se mettent en place des accords, alors des accords en entreprise ou des accords structurés pour l'instant unilatéralement par l'employeur, c'est selon, vous savez, selon la taille de l'entreprise, il y a ou non une représentation des collaborateurs et des salariés. Et je pense qu'il y a une véritable réflexion. Cette réflexion, elle doit aussi nous faire réfléchir au rayonnement de l'entreprise, qui jadis, lorsqu'une entreprise de taille tout à fait réduite s'envisageait dans une zone de chalandise d'une ville, désormais, par la capacité à recruter et à devenir attractive, elle l'est sur tout le territoire. Et ça, c'est un véritable sujet. Il y a des réflexions, oui, sur lesquelles il faudrait être très attentif, qui sont peut-être, nous sommes peut-être à l'orée de changements assez massifs, parce que lorsqu'une entreprise est en capacité de recruter au-delà de sa zone de chalandise, va se poser à nous la problématique du recrutement de collaborateurs, y compris extranationaux, où on constate que certaines entreprises, alors pour l'instant de taille intermédiaire, procèdent à des recrutements extérieurs à la France. Et donc ça devra aussi interroger notre modèle social, qui est quand même appuyé sur la cotisation avec des charges salariales et patronales pour financer notre modèle social. Donc ça, on devrait être très attentif là-dessus. Il y a des changements qui se passent sous nos yeux, dont nous n'avons pas encore la mesure jusqu'au des changements profonds qu'elle augure et sur lesquels nous, entrepreneurs, l'État par la suite, dans son analyse de risque et de financement de notre modèle social, auquel elle devra penser, ça c'est incontestable.
Donc un message certainement à transmettre aux candidats de l'élection présidentielle, puisque nous sommes en pleine période électorale, où voilà, ce sont des messages que vous allez remonter aux candidats.
Assurément. Alors, on craint à chaque fois, lors de chaque élection, de se faire, si j'ose dire, voler un petit peu
La
notre thème,
vedette.
puisque on comprend aisément la vedette, c'était déjà beaucoup demandé, on l'avait même pas envisagé, au moins que la thématique de l'entreprise et de l'entrepreneuriat soit prise en compte. Il y a deux choses que j'aimerais vous dire. La première, c'est que à la CPME, nous avons la faiblesse de penser qu'il n'existe pas meilleur facteur d'intégration que l'entreprise et que l'entrepreneuriat. En vérité, il n'y a pas d'histoire de mœurs, de race, de couleur, de religion. Il y a qu'est-ce que tu me livres, combien je te paie, quand est-ce que je te règle, si finalement c'est
Oui, la
assez
relation est
simple.
plus simple.
Et je pense que le gouvernement serait inspiré d'investir humainement parlant, j'entends, dans cette logique-là. Et le deuxième axe dont je me voudrais de ne pas aborder aujourd'hui, c'est premièrement, nous sommes le pays le plus fort taux de prélèvement, nous sommes le pays le plus fort taux de dépenses publiques. On a vu pendant cette période qu'on n'était pas forcément le pays avec les meilleurs services, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient de force sécurité, avec les plus faibles moyens dont ils disposent. Et que, en réalité, même si évidemment l'État n'est pas à comparer à une entreprise, ce n'est pas là mon discours, il y a une problématique de compétitivité, ne serait-ce qu'avec nos partenaires européens, hein, puisque l'Europe vient consacrer la libre circulation des biens et des personnes, et que se retrouver dans un pays avec des charges de fonctionnement qui sont juste pharaoniques, à un moment donné, va nous confronter à une difficulté de compétitivité avec nos voisins, nos cousins européens. Et que ça, si personne ne prend en charge cette démarche-là, et malheureusement, il semble que l'ensemble des candidats semble sombrer un peu dans leurs travers usuels de « je donne ci, je donne ça », peut-être voyons déjà, créons et ensuite on partage. Il n'y aura pas de difficulté là-dessus.
Voilà, allez, créons et on partage. C'est sur ces mots que nous allons rester. Merci beaucoup Samuel Sett d'avoir fait le point avec nous sur la situation des petites et moyennes entreprises en Occitanie. Au revoir.
Au revoir.